14 mai 1948, la création de l'État d'Israël est proclamée. Un moment historique dont les fondements sont à chercher à la fin du 19e siècle et dont les conséquences pèsent sur tout le Proche-Orient encore aujourd'hui. Alain Dikov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes directeur du Centre de recherche international et vous êtes spécialiste de l'histoire et de la politique d'Israël. On peut citer le livre que vous avez publié en 2017 chez Armand Collin, Le conflit israélo-palestinien. Alors nous allons avec vous retracer le processus qui a abouti à la création de cet État en remontant à la fin donc du 19e siècle. Mais selon vous, dans ce processus-là, quelle est la part beaucoup plus ancienne de l'histoire du peuple juif? On va nous remonter au 19e, mais finalement, est-ce qu'on pourrait remonter encore plus loin?
Oui et non. Oui, dans le sens où une dimension centrale du judaïsme, c'est l'amorce, ou plutôt l'approfondissement en réalité de la situation de dispersion des juifs qui vont partir de Palestine en masse. Si on remonte aux années du premier siècle de notre ère, c'est-à-dire 70, la destruction du Second Temple, et qui vont se répandre au début en Égypte, dans ce qui va devenir plus tard l'Irak, la Syrie, un peu plus lointainement le Yémen, et qui, à partir de là, vont essaimer aussi vers l'Europe essentiellement.
C'est la diaspora.
C'est la dispersion du peuple. Et le point qu'il faut retenir, si vous voulez, là-dedans, c'est que avec la dispersion, apparaît aussi l'idée que un jour, il y aura un retour. Voilà, donc c'est l'idée de retour qui est très importante, le retour à Sion. Et donc, il y a le messianisme qui est au cœur du judaïsme, indéniablement. Et donc, si on essaye de faire un lien entre ce qui apparaît à la fin du 19e siècle et un temps un peu plus long, c'est certainement cette nostalgie de Sion, donc cette volonté de retourner à Sion un jour. En même temps, il faut immédiatement insister sur la nouveauté que le sionisme, c'est-à-dire la constitution finalement d'une idéologie finalement politique qui veut activer ce retour, ça c'est quand même in fine quelque chose de fondamentalement moderne, même si ça s'appuie en partie sur cette nostalgie
linéaire. Très ancienne.
RCF, la suite de l'histoire.
Quel est le contexte au 19e siècle qui voit émerger le sionisme? Alors, on reparlera du sionisme ultérieurement, mais tout d'abord le contexte un peu général concernant cette diaspora juive.
Ça, c'est capital, parce que, évidemment, si la nostalgie de Sion était très ancienne, il n'empêche que le sionisme, lui, ne va se constituer qu'à la fin du 19e siècle. Alors la question, c'est pourquoi il se constitue à la fin du 19e siècle et pas au 16e siècle, par exemple, puisqu'on avait déjà cette nostalgie. Donc c'est que quelque chose a changé. Et ce quelque chose qui change, c'est en effet la situation globale du peuple juif à partir de la fin du 18e, en réalité, et jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors il faut commencer par donner, je pense, quelques chiffres. Le peuple juif, en 1880, c'est 7,5 millions de personnes. Et au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, c'est 13 millions. Il y a déjà une chose qu'on voit très nettement, c'est que c'est une période de transformation démographique, puisqu'il double quasiment son chiffre en l'espace de 35 années.
Comment il est réparti?
Alors, il est réparti de façon assez claire. Si on prend les chiffres de 1914, si je parle donc de ces 13 millions, on a 5,5 millions de juifs dans l'Empire russe. Quand je dis l'Empire russe, ça veut dire aussi, par exemple, une grande partie de la Pologne actuelle qui était russe. Vous en avez 2,5 millions dans l'Empire austro-hongrois. 2,5 millions se trouvent aux États-Unis. Pour l'essentiel, ils sont arrivés entre 1870 et 1914. Donc c'est une immigration récente, mais importante, puisqu'ils sont déjà 2,5 millions. Vous en avez 1 million en Europe occidentale, surtout en Allemagne, en réalité, ensuite en France et en Grande-Bretagne, et puis ensuite des communautés un peu dispersées dans d'autres pays, dont l'Italie, les Pays-Bas. Et vous avez 1 million de Juifs qui se trouvent, pour l'essentiel, dans les pays d'islam, c'est-à-dire dans tout l'espace qui va du Maroc à l'Iran, à l'Afghanistan, ceux qu'on a l'habitude d'appeler les Juifs séfarades, une appellation qui n'est pas tout à fait juste, d'ailleurs, parce que séfarade, ça veut dire Espagne. Or, ils ne viennent pas tous originellement d'Espagne. Mais bon, grosso modo, on les appelle quand même les Juifs séfarades. Ou les Juifs orientaux, ça fait à peu près 1 million. Tous les autres, y compris ceux qui sont aux États-Unis, sont des Juifs qu'on appelle les Juifs d'Europe, les Juifs ashkénazes, ashkénazes venant de l'appellation hébraïque pour Allemagne, même si là aussi ils ne viennent pas tous d'Allemagne, c'est une façon de dire que ce sont des Juifs européens. Donc c'est la grande masse, 90% sont des Juifs européens. Et il y a une toute petite minorité, mais alors vraiment petite, qu'il faut quand même évoquer malgré tout, qui était restée en Palestine ou qui sont venus au cours des siècles. On peut dire que dans les années 1860, il y a à peu près 25 à 30 000 juifs en Palestine. Ce sont des juifs traditionalistes qui résident pour l'essentiel à Jérusalem, à Tibériade et dans deux autres villes.
L'essentiel est donc se situant dans l'Empire russe. Oui. Est-ce qu'il y a un lien direct avec l'émergence du sionisme? Quelle est la situation de ce peuple juif en Russie?
Alors, je vais venir à la Russie, mais il faut dire qu'il y a un double phénomène qui va toucher le judaïsme, un positif, l'autre négatif. Le phénomène positif, c'est la transformation interne qu'il connaît à partir de la fin du XVIIIe siècle, essentiellement en Allemagne. C'est le mouvement qu'on appelait le mouvement de la Haskalah, le mouvement des Lumières. C'est un mouvement assez similaire au mouvement que connaît aussi le monde chrétien, hein, l'apparition des Lumières, c'est-à-dire d'une critique de la foi, entre autres, une volonté d'émancipation des individus, etc., etc. Donc ce mouvement, il touche aussi le monde juif. Ça conduit à une certaine remise en cause de la tradition religieuse classique et une volonté, au départ, en tous les cas, de rénovation du culte à la modernité.
Ça, c'est un mouvement interne, donc.
Ça, c'est un mouvement interne au judaïsme, mais qui, évidemment, va un peu déborder l'objet initial. L'objet initial, c'est finalement d'adapter les Juifs à la modernité. Ce point, il est très important, y compris pour le sionisme, parce que va se développer, finalement, une nouvelle manière d'être juif à l'époque moderne.
Les Juifs subissent à ce moment-là des violences, donc on parle des pogroms à cette époque-là.
Alors ça, c'est le lien avec l'Europe de l'Est, précisément, et précisément avec la Russie. Donc la Haskalah, donc le mouvement des Lumières, il se développe en Europe de l'Ouest, mais il est connu aussi en Europe de l'Est, parce que les idées circulent et les gens aussi commencent à circuler. Et c'est vrai que ce mouvement d'ouverture, d'émancipation, il va affecter une partie du judaïsme, disons de Russie, pour faire vite. Et là, il va se développer dans un contexte très très différent de l'Europe de l'Ouest, parce qu'en Europe de l'Ouest, progressivement, les Juifs sont émancipés, ils deviennent des citoyens, et le premier pays à leur octroyer la citoyenneté pleine et entière, ça va être la France, et les autres pays vont suivre progressivement au cours du 19e siècle. En Europe de l'Est, on n'est pas du tout dans cette situation. L'Empire reste un empire autocratique, très très répressif à bien des égards, vis-à-vis de tous les peuples, mais entre autres vis-à-vis des Juifs. Et c'est vrai que va se développer à partir des années 1860-70 tout un mouvement d'antisémitisme relativement massif.
Pourquoi? Je dirais.
Essentiellement en reposant sur la réactivation de préjugés de nature religieuse qui se base sur une vision assez stéréotypée des Juifs, nourrie par le christianisme orthodoxe. Et ça va conduire en effet au développement des pogroms, qui est d'ailleurs un terme russe, hein, ça veut dire détruire tout simplement. Hein. C'est donc des expéditions de paysans, la plupart du temps illettrés, que des agitateurs antisémites conduisent à détruire, voire tuer des Juifs dans les différentes localités ou quartiers des villes dans lesquelles ils habitaient. Donc, les Juifs, qui étaient donc les plus nombreux, hein, puisque je l'ai dit, 5,5 millions en 1914 dans l'Empire tsariste, la question va se poser, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans cette nouvelle situation d'antisémitisme? Et là, il va y avoir plusieurs options. Certains vont choisir très clairement l'option révolutionnaire, hein, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des militants anarchistes pour certains, socialistes pour beaucoup d'entre eux, mais qui vont militer dans des partis généraux, qui ne sont pas des partis juifs. Hein. Les Juifs vont rejouer, c'est indéniable, un rôle important dans la création du Parti social-démocrate russe, qui va être l'ancêtre du Parti communiste russe, hein, du Parti bolchevique. Hein. Et aussi tout le courant qu'on appelait le courant populiste russe, qui n'a rien à voir avec le populisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais qui était un mouvement de retour au peuple. Mais il y avait d'autres variantes, disons nationalistes, hein, parce que les variantes révolutionnaires sont des variantes, disons, d'émancipation individuelle. Hein. Les Juifs simplement sont appelés à participer à la lutte générale des autres peuples, mais d'autres pensent qu'il faut autre chose, et cette autre chose, ça va être différents nationalismes juifs.
Parmi les options qui se présentent aux Juifs, notamment de Russie, qui subissent un antisémitisme évident, fin 19e, début 20e. Vous parlez de nationalisme, Alain Dikoff. Qu'est-ce qu'on entend par là, à ce moment-là ?
Par nationalisme, il faut déjà, on ne l'entend pas quand je parle, mais il faut mettre un pluriel, parce qu'il y a plusieurs nationalismes juifs. Et le nationalisme le plus important qui s'est développé à la fin du 19e siècle, c'était celle qui était représentée par un parti qui s'appelait le Bund, B-U-N-D. Ça veut dire le lien, mais ça veut dire surtout, c'est l'acronyme de l'Union Générale des Travailleurs Juifs de Pologne et de Lituanie. C'était un mouvement de masse, socialisant, mais qui en même temps luttait à l'intérieur de l'Empire tsariste de l'époque pour que les Juifs obtiennent une autonomie en Russie, c'est-à-dire qu'ils puissent être représentés, par exemple, au sein du Parlement, par des députés juifs, et avoir une autonomie en matière éducative et en matière essentiellement culturelle. Mais il y avait un autre parti qui, lui, était beaucoup moins important à l'époque. Ce sont les différents groupes, d'abord pré-sionistes et ensuite sionistes, qui se sont développés. Eux, ils voulaient aussi une autonomie, voire beaucoup plus, ils voulaient un État. Ça passait par l'immigration, c'est-à-dire que cet État, il ne voulait pas le créer en Russie, c'est clair. Il voulait le créer... Alors où, pour l'essentiel...
La question se posait ?
Oui, alors la question s'est posée un moment, je vais y revenir. Mais disons assez vite, à partir de 1905, l'option était très claire, c'était de créer un État en Palestine. Le point important, c'est qu'il faut bien voir que si la masse de ceux qui vont adhérer au sionisme se trouve en Russie, y compris donc la Pologne actuelle... Celui qui va vraiment donner l'essor intellectuel au mouvement, celui qui va le structurer idéologiquement et le structurer aussi organisationnellement, c'est un juif qui vient de l'Empire austro-hongrois, qui s'appelle Theodor Herzl, qui est un journaliste au départ. Et son itinéraire à lui est en même temps aussi très intéressant, parce que c'est un journaliste qui pense que l'avenir des Juifs, c'est de se couler finalement dans les sociétés dans lesquelles ils se trouvent. C'était un libéral, disons, en ce sens-là. C'est-à-dire que les Juifs qui veulent garder des traditions juives et être fidèles au judaïsme...
peuvent le faire là où ils sont.
Là où ils sont.
Ils doivent le faire là où ils
absolument.
Sont.
Absolument. Et ils doivent lutter, dans le fond, pour avoir l'égalité des droits, pleine et entière. Bon.
Mais il y a un basculement, à un moment donné ?
Il y a un basculement pour lui, parce qu'il est correspondant... d'un grand journal viennois de l'époque qui s'appelle la Neue Freie Presse. Il est correspondant donc à Paris et il va assister à la dégradation du capitaine Dreyfus, qui était donc un juif, qui a été accusé, on le saura plus tard à tort, d'avoir trahi et d'avoir transmis des informations à l'Allemagne. Cette dégradation du capitaine Dreyfus à la fin du XIXe siècle va le marquer profondément. Et ce qu'il va en conclure, c'est que si quelque chose de cette nature est possible, y compris en France... où les Juifs ont été émancipés les premiers, en 1791 pour être précis, eh bien ça veut dire que la logique d'intégration des Juifs dans les pays d'accueil n'est pas possible.
Il faut trouver une autre solution.
Il faut trouver une autre solution. C'est-à-dire que l'émancipation, elle ne doit pas être individuelle, elle doit être collective. Elle doit être collective sous la forme que les Juifs voyaient, évidemment, autour d'eux. Ils n'étaient pas aveugles. Qu'est-ce qu'ils voyaient ? À partir du milieu, déjà, du 19e siècle, ils voyaient tout un tas de peuples s'agiter pour obtenir un État. Parce que c'est tout le mouvement des nationalités. Hein. Les Hongrois, à partir de 1848, les Polonais, évidemment, qui voulaient à nouveau devenir indépendants, et d'autres peuples, comme les Slovaques ou d'autres, les Grecs aussi, qui s'étaient battus pour l'indépendance au début du 19e. Donc, ils voient tout ça. Et ils se disent, il faut qu'on fasse la même chose. Et Herzl leur donne le cadre intellectuel. Il a saisi quelque chose, il a compris, enfin lui en tous les cas, a pensé que la solution, ça devait être la même chose que ce que les autres peuples autour de lui faisaient. Il y a le mouvement qu'il va créer, qui va être l'organisation sioniste, mais s'il avait été tout seul, ça aurait été un utopiste. La grande chance qu'il a, c'est qu'il va trouver les masses qui vont soutenir son idée, ces masses, il ne va pas les trouver en Europe de l'Ouest, parce que les Juifs de l'Ouest ne croient absolument pas à cette idée, ils pensent que c'est un utopiste, c'est un visionnaire, il est complètement à côté de la plaque, alors que les Juifs de l'Est vont en gros se saisir de cette idée, parce qu'ils sont déjà eux-mêmes travaillés par
ça. Ils sont très concernés par tout ça.
Parce qu'eux constatent qu'en effet, de toute façon, dans l'Empire tsariste, il n'y a pas d'évolution possible. Il reste des sujets opprimés, et que, en tous les cas, pour une partie d'entre eux, parce que d'autres croient à l'idée révolutionnaire. Ils vont être actifs avec Lénine et d'autres pour l'avènement du communisme. Mais d'autres pensent que, de toute façon, ça aussi, je dirais, le communisme, c'est aussi une utopie qui n'apportera rien aux Juifs in fine. Donc il faut qu'ils créent un projet national à eux.
Le sionisme, en un mot ?
L'appellation,
le mot en lui-même.
Le mot, il est tout simplement calqué, en effet, sur le terme de Sion. Sion, c'est une colline qui existe à Jérusalem, qui est une toute petite colline, hein, qui est une sorte de figure un peu métaphorique pour l'ensemble de la Terre promise. C'est même pas d'ailleurs Herzl qui va créer le mot, mais il va le reprendre de quelqu'un qui l'avait déjà créé en allemand. Parce que tout ça se fait en allemand, c'est aussi la chose intéressante. Herzl écrit en allemand, c'est un juif totalement germanisé. Et donc, Sionismus, c'est le sionisme, il va créer l'idéologie avec isme en l'adjoignant à Sion, du nom de cette colline à Jérusalem.
Vous dites qu'il trouve un écho auprès des masses de juifs d'Europe de l'Est. Est-ce qu'il trouve aussi des appuis financiers auprès de juifs qui peuvent soutenir le mouvement?
Ça, c'est une question intéressante parce qu'il va faire une démarche, par exemple, auprès du baron de Rothschild à Paris, et il va se faire éconduire. Parce que Rothschild ne croit absolument pas son idée, n'a aucune envie de mettre un sou là-dedans. Donc, il va avoir très très peu de soutien des philanthropes juifs qui auraient pu le soutenir à l'époque. Ceux qui vont l'aider financièrement, ça va être finalement des juifs relativement modestes, surtout en Europe d'ailleurs de l'Est, où ils étaient d'ailleurs pas très riches en général. En fait, non. Il se rend très bien compte que, vu la situation qui est celle des juifs, c'est-à-dire un peuple qui à 98% est en diaspora, et qui réclame donc de s'installer sur un territoire où, à l'époque, il y a à peu près 500 000 arabes, c'est ça la réalité, et 25 000 juifs, c'est-à-dire rien du tout, il se rend bien compte que s'il veut réaliser ça, les juifs n'y arriveront pas tout seuls. Et donc, sa grande intuition, c'est de dire, il faut qu'il y ait un appui politique, et pendant sa vie, qui sera assez brève, parce qu'il va mourir en 1904, à 44 ans, il va commencer des démarches auprès du grand-duc de Bade, auprès aussi des autorités russes, et surtout auprès de celui qui contrôlait à l'époque la Palestine, c'est-à-dire le sultan de l'Empire ottoman. Il fera chou blanc, mais l'idée est lancée quand même, c'est que le sionisme ne pourra pas arriver à ses fins simplement en comptant sur ses propres forces.
Est-ce que ça s'accompagne déjà de départs de juifs en Palestine qui vont s'installer là-bas?
Oui. Alors ça, c'était d'ailleurs antérieur à Herzl, parce que, en effet, il y avait déjà des idées un peu pressionnistes qui circulaient en Europe de l'Est. Et à partir des années 1880, après les pogroms les plus violents qu'il y avait eu à ce moment-là, il y a eu des vagues de départ, en effet. 30 à 40 000 juifs ont quitté la Russie à ce moment-là et se sont installés en Palestine. Tous n'y sont pas restés, d'ailleurs, parce que on oublie aussi de dire qu'il y a souvent des retours, et il y en a eu beaucoup à cette époque-là, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils arrivaient dans un coin complètement perdu, où il y avait énormément de problèmes sanitaires, et la malaria était absolument fréquente. Ils arrivaient vraiment dans un coin d'Orient auquel plus grand monde ne s'intéressait à l'époque. Il y a une redécouverte progressive de la Palestine au XIXe siècle, mais entre, je dirais, l'époque des croisades, c'est-à-dire ça, on remonte quand même au XIIe, XIIIe siècle, et disons le début du XIXe siècle, plus grand monde ne s'intéressait en Palestine.
Un désert.
Plus grand monde n'y allait. Plus grand monde n'y allait. Et quelque part, évidemment, la redécouverte un peu de la Palestine, elle n'est pas seulement le fait des Juifs, d'ailleurs, parce que les chrétiens commencent aussi à redécouvrir la Palestine en ce moment-là, parce que c'est le début de nouveaux pèlerinages, parce que les moyens modernes de transport le permettent aussi. Les bateaux en particulier, le chemin de fer. Donc c'est aussi, et les Juifs ne sont pas les seuls à y penser, mais c'est les seuls évidemment à avoir un projet politique.
C'est la Première Guerre mondiale qui va marquer un tournant décisif dans ce processus?
Oui, alors ce que la Première Guerre mondiale apporte, c'est précisément ce que Herzl n'était pas parvenu à obtenir, un appui extérieur fort. L'appui extérieur fort, il va apparaître en 1917, avant même la fin de la guerre, le 2 novembre 1917, avec la déclaration Balfour.
Donc, qui
consiste à une promesse du gouvernement britannique, hein, qui était la plus grande puissance de l'heure mondiale, à appuyer le sionisme, donc à appuyer le projet de création en Palestine, c'est ainsi que la déclaration est libellée, d'un foyer national pour le peuple juif. Donc c'est un engagement unilatéral de la Grande-Bretagne à soutenir ce projet. C'est une victoire inouïe pour le sionisme, parce qu'il faut se rendre compte que en 1917, ça fait 20 ans que l'organisation sioniste existe. C'est rien du tout.
Mais à quel titre les Anglais peuvent-ils faire cette promesse?
Alors, ils le font, évidemment, ça c'est important, sans consulter les populations locales. Ça c'est clair, c'est un engagement unilatéral. Ils le font parce que ils savent déjà à ce moment-là qu'ils vont être parmi les vainqueurs de la guerre, ça c'est clair, avec les Français. Et ils le font comme un engagement parce que ils voient dans le sionisme aussi une capacité de créer en Palestine, finalement, grâce aux Juifs, disons, une base un petit peu qui leur servira aussi un peu d'appui sur la route des Indes, parce que les Indes étaient déjà dans leurs mains. Et bien sûr, le contrôle de la route des Indes, c'est-à-dire l'espace qui va de la Méditerranée aux Indes, passait par le canal de Suez qui avait été créé peu de temps auparavant, et contrôler quelque part la Palestine, c'était un endroit stratégique. C'était un endroit où il n'y avait pas de ressources naturel du tout, mais c'était un endroit stratégique, ça c'est sûr, et ils ont pensé que l'arrivée de juifs servirait quelque part à constituer une sorte de base qui soutiendrait finalement leur politique impériale.
La fin de la Première Guerre mondiale voit la chute de l'Empire ottoman et donc la répartition de cette zone du Proche-Orient entre vainqueurs, en l'occurrence français et anglais, vous l'avez dit. C'est ainsi que la Palestine tombe sous la responsabilité des Anglais, qui voient là aussi un lieu tout à fait stratégique qui peut les conduire vers la route des Indes beaucoup plus facilement, va dans le sens du mouvement sioniste. Est-ce qu'on voit là un déferlement de juifs arriver ?
Non, ce sera certainement excessif, mais il est évident que le fait que les Britanniques obtiennent le mandat sur la Palestine va être un atout énorme pour le sionisme. Il faut évoquer ici une figure aussi qui est importante, c'est celle de Chaim Weizmann. Weizmann était un juif d'origine russe, mais qui s'était installé, un chimiste, qui s'était installé à Manchester, en Angleterre, au début du XXe siècle. C'est une figure qui, en dehors d'Israël, n'est pas tellement connue, mais c'est pourtant une figure qui a énormément compté. Ça a été lui, le chef, on peut dire, de l'organisation sioniste dans l'entre-deux-guerres. Et c'est avec Ben Gourion, celui qui, quelque part, a conduit Israël à son indépendance. Et lui, il a très bien compris que l'appui britannique était capital et que ça devait se faire en conjonction, que grâce à cet appui, quelque part, ce qu'on appelait le Yishuv, c'est-à-dire la communauté des Juifs installés en Palestine, pouvait croître. Et c'est vrai que ça a fonctionné. C'est vrai que ça a fonctionné. Alors, il n'y avait pas que cela, mais ça a été un élément important. Alors, cette croissance, elle a pris évidemment une première forme qui est très importante, c'est une croissance démographique. Le fait que les Anglais facilitaient quelque part l'immigration, avec des limites, je vais le dire dans un moment, était tout à fait capital. Mais c'est vrai aussi que ça dépendait de ce qui se passait en Europe. Et il faut bien dire que malheureusement, pour le monde juif, et la suite l'a encore prouvé davantage, l'entre-deux-guerres était une période assez noire. La première immigration importante, alors il y en a eu une en 1919, qui était plutôt une immigration venant de la Russie devenue soviétique, hein, avec pas mal de gens qui étaient souvent, c'est vrai, assez engagés politiquement, vers la gauche très clairement, et qui étaient sionistes en même temps. Ça, c'est une immigration un peu idéologique, c'est vrai. Mais les vagues d'immigration importantes qui sont venues ensuite n'étaient pas celles de gens qui étaient motivés par l'idéologie, mais tout simplement par des gens qui cherchaient un refuge.
Alors ils cherchaient un refuge. Parce que qu'est-ce qui se passait pour eux dans
l'entre-deux guerres ? Ce qui se passait, c'est la montée de l'antisémitisme, d'abord en Pologne, dans les années 20.
Dès les années 20.
Donc ça n'avait rien à voir avec les Allemands, ça c'était un antisémitisme purement polonais, si je puis dire. À partir de 1924, il y avait toutes des mesures extrêmement restrictives qui limitaient les activités professionnelles des Juifs en Pologne. Et donc, oui, évidemment, s'ils voulaient continuer à survivre, ils étaient obligés de partir. En même temps, la porte des États-Unis se fermait pour eux. Donc ça, c'est aussi important. Ils ne pouvaient plus aller aux États-Unis.
C'était l'immigration de manière générale qui était limitée ?
Non, c'est assez clair que c'était... On ne restreignait pas les Juifs en tant que tels, on restreignait les Polonais. Mais la majorité des Polonais qui avaient la citoyenneté étaient en fait Juifs. Donc en réalité, c'était bien les Juifs qui, quelque part, étaient entravés dans leur mouvement migratoire. Donc ça veut dire que la seule option qui leur était ouverte, finalement, c'était la Palestine. Donc ils sont allés un peu en Palestine par défaut. Hein, ça, c'est important. Et ça a été, évidemment, encore plus vrai de la vague migratoire ultérieure, à partir de 1933. 1933, évidemment, pour ceux qui ont un peu une culture historique, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc, là aussi, les Juifs allemands, qui étaient une communauté très très importante, il faut le dire, c'était la plus importante en Europe de l'Ouest, hein, ils n'avaient plus non plus, pour la plupart, l'alternative non plus des États-Unis, et eux aussi sont allés en Palestine un peu par défaut, comme un tout petit peu plus tard, les Juifs autrichiens.
La suite de l'histoire.
Donc les grandes masses migratoires, c'est un petit peu des Juifs qui sont poussés dehors d'Europe et qui arrivent en Palestine, qui sont pris en charge par l'organisation sioniste. Alors ça va être un apport pour le Yishuv, pour la communauté juive de Palestine, ça va être un apport parce que surtout les Juifs qui viennent d'Allemagne et d'Autriche, la grande différence c'est que contrairement à toutes les vagues migratoires antérieures, ils viennent aussi avec un certain capital.
Intellectuel.
Intellectuel, c'est sûr.
Financier.
Mais l'intellectuel, on l'avait déjà dans d'autres vagues. Mais là, par contre, ils viennent aussi avec un peu d'argent.
C'est une partie. Ils valorisent l'économie locale.
Exactement. Ils jettent les bases d'une industrie locale. qui n'existait pas. Et donc, ça va contribuer à l'essor de la communauté juive de Palestine, indéniablement. Ils vont commencer à... Parce qu'ils apportent des biens, mais du coup, ils créent aussi des besoins. Hein, c'est ça qu'il faut dire, ils créent aussi des
donc
besoins.
Donc, une économie s'installe.
Il y a une base économique un peu plus moderne. Voilà, parce qu'il y avait évidemment une économie, qui était essentiellement rurale, hein, très, très agricole encore, qui était celle des paysans palestiniens pour l'essentiel. Il y avait un peu de commerce, évidemment, mais qui était un commerce de détail pour l'essentiel. C'était assez maigre quand même. Donc là, il y a quand même une base économique un peu plus solide qui est jeté. Mais parallèlement à ce développement économique, il faut voir aussi que la communauté juive de Palestine, elle se structure aussi politiquement dès cette époque-là. On ne comprend rien à la création d'Israël en 1948 si on ne regarde pas comment elle se structure politiquement dans l'entre-deux-guerres. Et elle va commencer à se structurer de façon relativement forte. D'abord, par une offre politique, il va y avoir des partis politiques
sur place.
Qui vont se créer sur place, qui pour l'essentiel d'ailleurs vont être importés par les immigrants eux-mêmes, c'est-à-dire que les partis existaient déjà en diaspora, hein. C'était des partis sionistes qui vont migrer avec les juifs, hein, qui s'installent là-bas. Alors les groupes dominants sont des groupes de gauche socialiste, sont des sionistes, mais de gauche, hein, les ouvriers de Sion, par exemple, c'est un des partis importants, le jeune ouvrier, qui est un autre parti important. L'offre politique est essentiellement une offre politique de gauche, mais à partir des années du milieu des années 20, il y a aussi une offre politique de droite, mais qui est beaucoup plus minoritaire, qui est l'ancêtre, mais vraiment très très lointaine, du parti du Likoud qui existe toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose. Il y a une offre politique qui se développe. La personne évidemment la plus importante et que tout le monde connaît, au moins de nom, c'est Ben Gourion évidemment, qui était arrivé dès 1904. C'était déjà un ancien de ce point de vue-là, mais c'est lui qui va devenir progressivement le leader de ce sionisme de gauche, et plus tard, pas seulement du sionisme de gauche, mais en fait de l'ensemble de la communauté juive de Palestine dès les années 30. Mmh. Donc avant même de devenir Premier ministre, c'est vraiment la personnalité qui compte. Il faut voir aussi que la présence de ce sionisme de gauche, elle va aussi s'exprimer à travers une assemblée des juifs de Palestine qui va voir le jour dès l'entre-deux-guerres, et donc il y a une structuration politique de la vie juive, politique juive, sur place déjà. Hein.
À Jérusalem ?
À Jérusalem, mais il y a une assemblée qui va se réunir, et il y a une sorte de gouvernement, d'administration qui fonctionne. Évidemment, ça n'est pas secret, hein, je dirais, à la fois les Arabes de Palestine et aussi l'administration britannique, qui est là, évidemment, puisque c'est la puissance coloniale quand même, le savent très très bien. Mais il y a une tolérance, disons, pour l'organisation de cette vie politique. Et avec ça, il y a aussi une organisation qu'il faut évoquer, parce qu'elle existe toujours aujourd'hui, même si son statut a changé, c'est la Histadrut. Alors la Histadrut, ça veut dire l'organisation, elle a été créée en 1920, on l'appelle parfois un syndicat, mais c'est pas vraiment un syndicat, c'est beaucoup plus qu'un syndicat. C'est une vraie organisation qui organise plein de choses à l'intérieur de cette communauté juive de Palestine, qui, entre autres, va jeter les fondements de quelques entreprises de travaux publics, par exemple, qui vont donner du travail aussi aux nouveaux immigrants, parce que c'est tout un ensemble, hein, parce que les immigrants qui arrivent, il faut leur donner du travail. Donc, évidemment, ils vont pas pouvoir trouver du travail dans les...
Donc,
dans les...
une grande solidarité qui s'installe.
Alors, il y a une solidarité qui s'installe, alors qui n'est pas acceptée par tout le monde. Évidemment, outre les Arabes qui la combattent, il y a aussi une partie des Juifs ultra-orthodoxes qui ne se reconnaissent pas là-dedans, qui sont en dehors du système, ils sont anti-sionistes d'ailleurs, ils n'adhèrent pas à cette idée, ils considèrent que les Juifs sionistes sont des rebelles, voire des hérétiques, donc ils les rejettent.
Et ce sont les rabbins, hein, essentiellement des
alors,
rabbins.
Il y a aussi des rabbins qui soutiennent le sionisme, mais disons, il y a des ultra-orthodoxes, les Juifs traditionnalistes, disons, ne sont pas dans cette logique-là. Mais donc, il y a une minorité d'ultra-orthodoxes qui rejettent ça, mais quand même la masse de ceux qui viennent comme immigrants, en réalité, souvent, comme je l'ai dit, sous la contrainte, d'autres viennent par conviction, mais quand même beaucoup viennent sous la contrainte, eh bien ils vont être pris en main un petit peu par l'ensemble de ces organisations, et surtout la Histadrut qui va jouer vraiment un rôle tout à fait capital, et Ben Gourion va être, c'est pas un hasard évidemment, aussi le responsable, le secrétaire général de la Histadrut, et va jouer un rôle tout à fait déterminant dans l'organisation de cette communauté.
À quel moment les kibbutz apparaissent-ils ?
Ben précisément à cette période. Donc on voit aussi que c'est une structuration tout à fait importante. Alors il y avait quelques petits signes avant-coureurs avant la Première Guerre mondiale, mais ils deviennent vraiment structurés. Il y a deux organisations qui apparaissent, disons, pour structurer un peu la population. Outre, évidemment, les gens qui habitent dans les villes, parce qu'il faut quand même pas oublier que beaucoup vont s'installer à Jérusalem. D'autres vont s'installer dans une nouvelle ville, qu'il faut évoquer ici, c'est Tel Aviv, qui a été créée, c'est vrai, en 1909. Mais le véritable essor, c'est quand même l'entre-deux-guerres. Il n'y a pas de doute. Avec l'arrivée des juifs polonais, des juifs allemands, etc., etc., qui étaient des urbains. C'était pas des gens qui venaient de la campagne, hein.
Et donc, là, on vit ensemble. On crée des petites communautés.
Et à côté apparaissent deux structures qui existent toujours aujourd'hui. C'est d'une part les villages coopératifs, qu'on appelle les moshavs. Ce sont des villages où les gens ont des maisons à eux, donc ont une certaine autonomie, mais où on met certains moyens de production en commun. Et à côté, la grande innovation, évidemment, c'est le kibboutz. C'est là où tout est collectif. C'est-à-dire que rien n'est individuel, tout est collectif, les gens mangent ensemble, les enfants eux-mêmes ne sont pas élevés avec les parents, mais sont dans des maisons à part, où ils sont avec des éducateurs, etc. Bon, ils voient leurs parents de temps en temps, mais ils vivent séparés quand même. Donc c'est le collectivisme intégral, hein, on peut le dire.
Mais les terres appartiennent à qui ?
Alors, les terres ont été des terres qui ont été achetées, parce que ça aussi, c'est important. En fait, la réussite du sionisme, c'est deux choses. Il fallait qu'il y ait des immigrants qui arrivent, il fallait donc une population, puisque la population au départ juive était très maigre, hein, comme je l'ai dit, et il fallait évidemment qu'ils puissent avoir une assise territoriale.
S'implanter quelque part.
Alors, ils s'implantaient. Et comment ils l'ont fait ? Eh ben, ils l'ont fait, là, ça s'est passé essentiellement par le canal, à l'époque, en tous les cas, d'une organisation qui avait été créée dès le début du XXe siècle, qui s'appelait le Fonds National Juif, et qui était chargé d'acheter les terres aux grands propriétaires arabes, qui étaient souvent des propriétaires absentéistes, c'est-à-dire des propriétaires qui habitaient par exemple au Liban, mais qui avaient des terres en Palestine et qui ont vendu une partie de ces terres aux Juifs. Cela dit, il faut bien se rendre compte que si on regarde la situation en 1948, c'est-à-dire quand la première guerre israélo-arabe va éclater, le Fonds National Juif n'a été en mesure d'acheter que 8% des terres. Hein. Mais c'est sur ces 8% qu'en effet les kibboutz, les moshavs ont été créés.
Alain Dikoff, dans l'entre-deux-guerres, sur ce territoire palestinien, finalement, il y a trois communautés. Les Juifs, les Arabes et les Anglais.
Oui. Alors évidemment, les Anglais, c'est une toute petite communauté, hein, parce que c'est essentiellement des administrateurs coloniaux qui viennent avec leurs familles. C'est vraiment des
c'est marginal.
C'est très marginal, oui.
Mais quand même, ça pèse.
Bah, ça pèse politiquement, parce que c'est évidemment eux qui gèrent l'administration.
Ils tirent les ficelles quand même, ils tirent les ficelles.
Tirer les ficelles, c'est beaucoup dire. Je dirais que le grand drame des Britanniques, c'est qu'ils vont se trouver avec un mandat impossible à mettre en œuvre. Qui est donc un mandat qui est donné, et ça il faut le dire, par la Société des Nations. La Société des Nations, c'était l'ancêtre de l'ONU actuelle. Voilà. Le mandat, il est impossible parce qu'il demande à la fois aux Britanniques de mettre en œuvre la déclaration Balfour, qui précise...
Tenir la promesse, donc.
Qui est donc la promesse qu'ils doivent aider les Juifs à constituer un foyer national en Palestine. C'est très clair, ça figure dans le mandat. Donc ils sont obligés quelque part de les aider, tout en tenant compte de ce qu'ils appellent, d'ailleurs ce qui a été appelé un peu maladroitement, en fait, à mon avis, des groupes non-juifs, mais qui étaient quand même majoritaires, il faut le dire. Donc,
c'est-à-dire non-juifs arabes.
Arabes, oui, oui, mais c'est comme ça que c'était défini. Hein. Donc, évidemment, ils ne voient pas d'un bon œil l'arrivée des Juifs qui ont ce projet politique. Enfin, les élites, en tous les cas, de la population arabe de l'époque, comprennent très vite que le projet sioniste est un projet politique qui va changer complètement la donne. Parce qu'il y avait toujours des Juifs qui venaient au cours des siècles. Mais ces Juifs qui venaient, ils venaient pourquoi ? Ils venaient pour aller dans les villes saintes du judaïsme, à Jérusalem pour l'essentiel, mais aussi à Hébron, à Safed et à Tibériade, pour prier, pour étudier la Torah, etc., etc. Les Arabes n'avaient aucun problème avec ça. Mais là, ils se rendent bien compte que ce ne sont pas des Juifs traditionalistes qui arrivent. Au contraire, c'est des Juifs qui, par exemple, sont motivés par le nationalisme, certes, mais aussi par un projet de type presque communiste. Le kibboutz, c'est quoi ? C'est l'utopie communiste réalisée. Ils voient des gens où il y a une mixité entre garçons et filles, qui est une chose qui est totalement aberrante pour eux. Donc, ils se rendent bien compte que ce sont des Juifs qui ont tout à fait une autre idée en tête. Hein ? Et donc, au fur et à mesure, et finalement, assez rapidement, finalement, cette réalité juive est en train d'être transformée. Ils voient qu'il y a des écoles, évidemment, où on enseigne les matières séculières, hein, qui apparaissent dans les villes. Ils voient l'essor de l'économie. Ils voient le développement progressif d'une autre langue, à savoir l'hébreu. Ils voient qu'il y a des associations sportives, des mouvements de jeunesse juifs, etc. Et que tout cela, ils sont motivés par un seul objectif, Ils veulent créer un État juif. Donc ça, ils le comprennent assez vite. Et les Britanniques, dans cette affaire, bah, ils vont essayer de concilier, dans le fond, l'inconciliable. C'est pour ça que, quelque part, on pouvait dire finalement, dès 1920, qu'ils n'y arriveraient pas.
Quand vous parlez des élites arabes, de qui s'agit-il ?
Alors, les élites arabes de l'époque, c'est des grandes familles qui existaient, de notables, qui étaient en général des propriétaires fonciers aussi, hein, les Khalidi, les Nashashibi, les Husseini, et d'autres encore, qui étaient dans une structure qui était, je dirais, essentiellement féodale, hein, on pourrait l'appeler comme ça, avec une masse très importante d'agriculteurs qui étaient quelque part un peu leur clientèle en même temps. Alors, dans l'entre-deux-guerres, bon, d'une part, les Britanniques se trouvent avec ce mandat impossible. Régulièrement, il va y avoir des commissions d'enquête qu'ils vont envoyer là-bas pour faire des propositions, mais qui finalement ne font pas beaucoup avancer les choses jusqu'à 1936. Bon, en 1936, il y a une grande lutte déclenchée par les Arabes qui s'appelle la Grande Révolte Arabe, qui va durer de 36 à 39, donc très très longtemps, avec des grèves générales, qui est essentiellement une lutte, pas contre les Juifs, même si évidemment, en background, il y a quand même la lutte contre le sionisme, mais qui est essentiellement une lutte contre les Britanniques, contre la puissance coloniale, qui quelque part, évidemment, aide le mouvement sioniste, même si par moments ils essaient de s'en défaire. C'est une relation un peu compliquée avec les sionistes. Mais en même temps, cette grande révolte arabe, elle va être un échec. Hein, elle va être un échec, c'est-à-dire que finalement les troupes britanniques vont l'emporter en 39 et vont éliminer, on peut dire, le mouvement national palestinien, en tous les cas comme acteur essentiel. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui va aider objectivement les Juifs dans leur entreprise un peu plus tard. Mais les Arabes souffrent aussi quand même de quelque chose qui leur est propre, c'est d'une division. C'est-à-dire qu'ils sont opposés au sionisme, ça c'est clair, ils sont opposés aussi à la puissance coloniale, avec des nuances malgré tout, mais en même temps ils sont divisés entre eux. Et c'est vrai que certains sont un peu plus accommodant avec la puissance coloniale, c'est en particulier la famille des Nashashibi qui ont leur propre, qui ont un parti politique qui les soutient, et de l'autre côté les Husseini avec le grand mufti de Palestine qui lui est vraiment radicalement opposé aux sionistes et aussi aux Britanniques et qui a d'autres partisans. Donc il y a aussi des luttes internes qui vont, à mon avis, aussi nuire très clairement au mouvement palestinien dans l'entre-deux-guerres. Donc l'entre-deux-guerres est une période où il y a une succession d'affrontements, soit entre juifs et arabes, avec souvent des émeutes en 1920, en 1921, en 1929.
Ou des agressions.
Des agressions, des moments de calme aussi, hein, il faut le dire, hein, c'est pas tout le temps la guerre permanente, des moments de calme. Et puis surtout, ensuite, comme je l'ai dit, la grande révolte arabe en 36 et 39, qui va être là un mouvement essentiellement d'opposition à la puissance britannique.
La suite de l'histoire.
Il faut dire que cette période, elle va aussi être importante pour la communauté juive de Palestine parce que du fait des affrontements, la confrontation avec les Arabes, elle va obliger les Juifs à mettre en œuvre quelque chose auquel ils n'avaient pas beaucoup songé jusqu'alors, c'est-à-dire des moyens militaires. Parce qu'ils se rendent compte que leur projet, s'ils ne le défendent pas, eh bien, ils n'arriveront pas à le faire. Parce que les Arabes sont évidemment, pour l'essentiel, totalement opposé.
En termes de chiffres, là, peut-être qu'il faut redonner un peu une idée. Vous avez parlé de 500 000 Arabes en Palestine.
À la fin du 19e.
À la fin du 19e, début 20e, on en est où, là ?
Alors, évidemment.
Dans l'entre-deux-guerres.
Dans l'entre-deux-guerres, ça dépend à quel moment on se place, mais grosso modo, si on regarde la situation dans les années 40, hein, on peut dire que les Arabes en Palestine sont à peu près 1 200 000, et les Juifs arriveront à peu près à 500 000, c'est-à-dire un demi-million. Donc, évidemment, il y a toujours un différentiel. Mais comparativement, les Juifs ont beaucoup cru par l'immigration, pour l'essentiel, même si les Arabes ont aussi cru, hein, puisqu'ils ont plus que doublé leur population, essentiellement par la croissance naturelle en ce qui les concerne. Donc il y a toujours un déséquilibre entre les deux, mais évidemment, par rapport au niveau dont les Juifs sont partis, c'est un gain énorme, hein, par rapport à la population, au nombre qu'ils avaient au début du XXe siècle. Ça, c'est une force pour eux, c'est-à-dire qu'ils s'accroissent démographiquement. Mais ils se rendent aussi compte que leur projet, encore une fois, il n'est pas possible s'ils ne vont pas le défendre dans militairement. Le fond, militairement, un moment ou un autre. Alors d'abord, ils constituent des groupes paramilitaires pour se défendre simplement contre les agressions. Parce que régulièrement, il y a des escarmouches entre villages arabes et par exemple les kibboutz qu'on a évoqués, ou les autres villages coopératifs juifs. Donc ils veulent se défendre. Et pour se défendre, ils vont créer, dans les années 20, un mouvement, enfin plutôt une organisation qui s'appelle la Haganah, qui veut dire tout simplement la défense, et qui est la structuration de la future armée israélienne, en fait.
Avec l'assentiment des Anglais ?
Avec l'assentiment partiel. C'est-à-dire c'est une armée, je dirais, semi-clandestine. Parce que, par exemple, lors de la grande révolte arabe de 36-39, il est très clair que les Anglais utilisent aussi ces forces auxiliaires contre les Palestiniens, parce qu'évidemment, ils ont le même ennemi, quelque part. En tous les cas, à cette époque-là. Parfois, les Anglais les utilisent, parfois, ils les ignorent, mais il y a un jeu un peu compliqué, de toute façon, entre ces deux acteurs. Mais, de ce point de vue-là aussi, l'entre-deux-guerres est tout à fait crucial, parce qu'en effet, si les choses s'étaient passées différemment, en 1948, si on reprend cette date, si les Juifs n'avaient pas eu une force militaire déjà prête, ils auraient été balayés, c'est très clair. Et Ben Gourion en particulier avait très bien compris que quelque part, à un moment, on ne pourrait pas faire l'économie du recours aux armes. Et c'était soit y renoncer, soit finalement, vu l'opposition quasiment frontale des Palestiniens arabes, il fallait qu'à un moment il y ait une guerre. Même si certains Juifs, il faut le dire, avaient pensé autrement. C'était une minorité, mais il y avait quand même, dès les années 30, des groupes minoritaires qui voulaient un État judéo-arabe. Un seul État pour
Mais
les
ça, c'est
peuples.
Très minoritaire.
C'est minoritaire, mais il y a des groupes qui l'ont porté. Mais il faut bien dire que, malheureusement aussi, il n'avait pas d'interlocuteur en face. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Palestiniens qui adhéraient à ce projet. C'est-à-dire que les Palestiniens étaient très clairement à cette époque dans une logique de tout ou rien. Ils voulaient un État pour eux sur l'ensemble de la Palestine mandataire et il n'y ait pas de compromis avec les Juifs.
À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, à Lindikov, on pourrait penser que les Juifs d'Europe sentent monter la menace.
Alors, c'est vrai pour les Juifs allemands, je l'ai déjà dit, parce que eux, dès 33, la situation devenait difficile pour eux. Ça a été à partir de 38, pour les Autrichiens aussi, les Juifs autrichiens. Mais après, il y a un changement de la politique britannique. C'est-à-dire qu'en 1939, même s'ils sont victorieux par rapport aux Palestiniens, militairement, avec en partie l'aide d'ailleurs de certains groupes juifs, ils vont prendre une décision qui est un tournant parce que ils vont publier un livre blanc en 1939 qui limite de façon drastique l'immigration juive. Les Anglais, donc un livre blanc britannique 1939, au moment même où la guerre commence. Donc au moment même où, dans le fond, on le saura un peu plus tard. C'est-à-dire au moment même.
C'est là qu'ils auraient besoin de pouvoir venir et on le leur interdit.
Ils ne peuvent plus. Les portes se ferment. Évidemment, les portes de l'Europe se ferment aussi. C'est-à-dire qu'immigrer à partir de 39, c'est beaucoup plus compliqué pour tout le monde et pour les Juifs en particulier.
Pourquoi les portes se ferment là?
Mais parce que les Britanniques prennent une décision politique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en 39, ils prennent la décision politique de dire, ils font le constat qu'ils auraient pu faire évidemment plus tôt, mais qu'ils n'avaient pas fait. C'est-à-dire que le mandat est impossible. Ils ne peuvent pas arriver à un accommodement entre les Juifs et les Arabes. Donc ils font un choix finalement qui est quelque part de renoncer au mandat. Dans le fond, ils renoncent à la clause du mandat qui les contraignait quelque part à créer un foyer national pour les Juifs. Tout le drame, c'est qu'évidemment, ils prennent cette décision politique au moment où les Juifs d'Europe en auraient eu le plus besoin de ce refuge.
Quand on dit que la création de l'État d'Israël est une sorte de réparation après la Shoah, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce qu'on peut dire, c'est que le soutien au projet de création d'un État juif par les puissances qui comptaient à ce moment-là, à savoir les États-Unis, en effet la France et même l'Union soviétique, pas la Grande-Bretagne, évidemment, puisqu'elle était mandataire, donc elle était dans une position un peu différente. Mais le soutien à ce projet de création d'un État juif était évidemment lié au génocide des Juifs d'Europe et aussi à la situation née en 1945, qui est celle des personnes déplacées. C'était l'appellation officielle. Les Juifs rescapés du génocide en Europe de l'Est, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, qui se retrouvaient dans des camps de personnes déplacées, essentiellement en Allemagne et en Autriche, et dont il fallait en fait savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Qu'est-ce qu'on allait en faire ? 200 000 personnes quand même, c'était pas rien. Les États occidentaux ne voulaient pas les accueillir. y compris les États-Unis, ou alors...
Au compte-gouttes.
Oui, exactement, de façon très très limitée. La Palestine était aussi une option. Donc il ne faut pas non plus négliger le fait que le soutien pouvait, de la part de certaines puissances pouvait être lié à cela. Trouver une solution pour les personnes déplacées, les Juifs qui se retrouvaient dans ces camps. Mais ce que j'ajoute immédiatement, et je pense qu'on l'aura compris au cours de ces émissions, c'est que cela n'aura pas été possible s'il n'y avait pas eu tout un travail antérieur pendant des décennies et qui a été le fait des Juifs eux-mêmes, voilà, qui, pour une partie d'entre eux, en tous les cas, ont pris en main leur destin et ont imaginé ce projet politique, et en particulier dans l'entre-deux-guerres, ont jeté les fondements d'Israël. Israël a existé quelque part avant l'État d'Israël, c'est ça que je veux dire. S'il n'y avait pas eu tout ce travail préalable, il n'y aurait pas eu de reconnaissance par la communauté internationale, ça me paraît assez clair.
La guerre se termine, 200 000 Juifs qui ne savent plus où aller. Comment est-ce qu'on s'y prend pour les orienter vers la Palestine, sachant que ça n'est pas chose facile? Absolument. Il y a également des camps à Chypre, notamment.
Oui. Alors, Chypre, c'est un cas un peu particulier. Chypre, c'était des camps d'internement dans lesquels les Juifs qui venaient d'Europe étaient internés lorsque leur bateau était arraisonné par les Britanniques. Comme je l'ai dit, les Britanniques avaient mis en œuvre le Livre blanc en mai 1939 qui limitait de façon drastique l'immigration juive.
Et ça se poursuit même après la guerre.
Absolument. Ils ont poursuivi cette politique après 1945. Ça paraît assez incroyable aujourd'hui.
C'est ce qui est arrivé à l'Exodus aussi, par exemple.
Absolument. Ça, c'est l'épisode de l'Exodus et ce bateau qui part avec 4500 rescapés en juillet 1947, de France d'ailleurs, avec le soutien plus ou moins tacite des autorités françaises d'ailleurs à l'époque, qui va vers la Palestine et qui est arraisonné précisément par les Britanniques, qui lui interdisent d'aller en Palestine et qui est renvoyé vers la France et finalement va se retrouver à Hambourg, donc dans le nord de l'Allemagne, qui faisait partie de la zone d'occupation britannique. Et là, évidemment, c'est vrai que l'organisation sioniste va très habilement, je dirais, utiliser cet épisode pour montrer la cruauté des Britanniques et donner une justification, une légitimation à leur projet politique. Et on peut dire que ça a marché, quoi. Ça, c'est indéniable que ça a marché. Cette affaire de l'Exodus a énormément de résonance en France. Faut savoir que des personnes comme Jean-Paul Sartre, par exemple, avaient soutenu les sionistes dans cette affaire et bien d'autres intellectuels. Ça a eu pas mal d'échos aussi aux États-Unis et ça a servi à détériorer l'image des Britanniques et certainement accélérer aussi le mouvement qui a conduit à la résolution de partage de la Palestine en deux États, un État juif, un État arabe.
En quelle année les Anglais quittent-ils la Palestine ?
Alors, en gros, les Anglais, après 45, continuent à mettre en œuvre la politique du Livre blanc. En même temps, la situation devient de plus en plus difficile à contrôler pour eux. Il y a à la fois des groupes juifs qui font des attentats contre eux, en particulier l'Irgun, qui était un groupe dissident, dirigé par quelqu'un qui s'appelait Menachem Begin, qui est devenu Premier ministre en 1977.
L'hôtel
King David.
90 morts.
Exactement, qui était un attentat fait par l'Irgun, très clairement. Et puis l'opposition aussi, évidemment, des groupes irréguliers palestiniens qui luttaient à la fois contre les Britanniques et contre les groupes juifs. Donc les Britanniques, dans cette situation, ont dit « bon ben, on remet le mandat à l'ONU, à charge pour eux de faire une proposition ». Et les Anglais, en réalité, pensaient que l'ONU ne parviendrait pas à une solution. Et là, ils se sont trompés parce que il s'est passé quelque chose qui était assez inattendu. En novembre 1947, le 29 novembre, quand le vote a eu lieu, il y a eu une rencontre, une conjonction entre la position américaine et la position soviétique. Les soviétiques ont voté le partage de l'ONU. Et quand les soviétiques ont voté, évidemment, tous les pays, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc., ont voté aussi dans ce sens-là et ont finalement donné une majorité qui était nécessaire pour le vote du partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe.
Il paraît que le vote de la France n'était pas acquis au début.
Absolument, c'est très vrai. La France a beaucoup hésité dans cette affaire, entre autres parce qu'elle avait à l'époque un empire colonial quand même important, et aussi encore à l'époque d'ailleurs en Syrie et au Liban. Donc en effet, le vote de la France était loin d'être acquis, et finalement il a été positif, mais il y a eu une vraie campagne de l'organisation sioniste auprès des États membres pour essayer de les convaincre.
Et ça a fonctionné,
il y a une majorité qui s'est décidée dans ce sens-là, sauf que ça n'a pas marché, puisque la partie arabe ne l'a pas entendu de cette oreille. Évidemment, les Palestiniens sur place, mais aussi tous les États arabes de l'époque, qui étaient indépendants tout au moins, qui ont refusé ce plan de partage. La guerre était quelque part inévitable.
RCF, Véronique Alzieu.
Vous parlez de plan de partage, vous ne parlez pas de création de l'État d'Israël jusqu'à présent.
Non, parce que ce que la résolution de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947 stipule, c'est le partage entre deux États, avec d'ailleurs un statut spécifique pour Jérusalem. Parce que c'était pas seulement une affaire de Juifs et d'Arabes, c'était aussi une affaire pour la communauté internationale, et en particulier pour l'ensemble du monde chrétien, qui évidemment avait aussi des attaches spirituelles fortes vis-à-vis de la Terre promise et de Jérusalem en particulier, d'où l'idée de créer aussi un statut spécifique pour Jérusalem. Mais tout ce plan, finalement, est resté dans les tiroirs, comme le plan a été immédiatement refusé par la partie arabe, parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi, étant majoritaire, ils devaient partager. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ils sont rentrés dans la guerre, ils pensaient aussi que l'avantage militaire via les États arabes les ferait gagner. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Et il y a eu deux phases, en fait, dans le conflit qui s'est ouvert. La première phase, qui va donc de décembre 1947.
Quasi immédiatement après la résolution de l'ONU.
Tout de suite. Les heurts ont commencé dès le vote. Dès le lendemain du vote, il y a eu des heurts, il y a eu des attaques contre des juifs qui allaient d'un village à l'autre, des attaques contre les kibboutz, etc. etc.
Donc, décembre.
Dès la fin novembre. Donc, décembre, janvier, février, mars, avril. Pendant toute cette période, je veux dire, c'est une guerre judéo-palestinienne. C'est-à-dire que la Haganah, l'Irgun, les organisations paramilitaires juives d'un côté, et de l'autre côté, tout un groupe d'irréguliers palestiniens, et aussi avec l'apport, dès janvier 1948, de ce qu'on appelait l'armée de libération arabe, qui étaient des volontaires qui venaient essentiellement de Syrie, qui combattaient du côté des Palestiniens, évidemment, contre les Juifs. Alors, il y a eu différentes phases dans la guerre, avec les Britanniques un peu au milieu, qui participaient pas au combat en tant que tels, hein,
qui étaient encore sur place?
Ils étaient toujours sur place, absolument. Ils étaient toujours sur place, parce qu'ils avaient fixé une limite au mandat, c'était le 15 mai 1948. C'est-à-dire que le 15 mai 1948, nous partons définitivement, et le dernier haut-commissaire britannique va plier bagages et éteindre la lumière. Tout le monde savait que c'était l'échéance. Donc la guerre entre Juifs et Palestiniens était très importante, parce que ça permettait déjà de fixer des lignes pour le moment où les Britanniques partiraient le 15 mai 1948. Et donc la guerre a connu diverses phases, une phase où les Juifs étaient plutôt sur la défensive dans un premier temps, et ensuite une phase où ils ont commencé à prendre l'offensive pour différentes raisons d'organisation, mais aussi parce qu'ils ont commencé à avoir des armes en nombre plus important qui venaient de Tchécoslovaquie. Donc là, on voit bien que si les Tchécoslovaques ont pu livrer des armes, c'est parce que l'Union soviétique les soutenait, c'est très clair. Et donc ce soutien leur a donné un avantage à partir du mois d'avril 1948, où ils ont commencé à contrôler en gros le terrain qui leur avait été alloué par l'ONU en 1947. Et commence aussi à ce moment-là, à partir du mois d'avril, quelque chose qui va évidemment prendre encore plus d'ampleur par la suite et qui va aussi déterminer beaucoup de choses et nourrir beaucoup de griefs jusqu'à aujourd'hui, c'est le départ des Palestiniens de villages ou de quartiers des villes dans lesquels ils habitaient. Ce départ, évidemment, il a fait couler beaucoup d'encre, mais je pense qu'aujourd'hui, grosso modo, on voit à peu près comment les choses sont passées. Il est très clair qu'une partie des Palestiniens sont partis tout simplement parce qu'il y avait la guerre. Il faut bien se rendre compte aussi que l'espace est très petit. On parle d'un espace très réduit en termes de kilomètres carrés, hein. Ça fait à peu près 20 000 kilomètres carrés, donc c'est quand même pas énorme. Donc il y en a qui étaient pas très loin, par exemple, de la frontière avec le Liban, ils sont allés au Liban, d'autres qui étaient pas très loin de la frontière avec la Syrie, ils sont allés en Syrie, et idem pour ceux qui sont allés en Jordanie. La plupart sont partis d'ailleurs avec l'idée que ça durerait pas trop longtemps, qu'ils pourraient revenir et que les armées arabes gagneraient. Alors certains sont donc partis du fait de la guerre elle-même, et d'autres... Et c'est vrai que c'est une tendance qui s'est encore accrue au fil des mois, parce qu'ils ont été poussés dehors par la jeune armée israélienne qui marquait des points. On leur a dit, bon ben voilà, vous avez 24 heures pour partir de l'autre côté, du côté des lignes ennemies. C'est la naissance de ce qu'on appellera plus tard le problème des réfugiés. Donc ça, c'est la première phase de la guerre, c'est jusqu'au 14 mai 48. Et le 15 mai arrive. Pourquoi la proclamation de l'État a eu lieu le 14 mai? Parce que c'était la veille du départ des Britanniques. Le 14 mai, à minuit, l'État d'Israël verra le jour. Mais Ben Gourion, qui a proclamé l'État solennellement au musée de Tel Aviv, savait très bien que la guerre allait continuer, avec encore beaucoup plus d'ampleur, puisque les États arabes avaient très clairement dit que dès que le mandat serait fini, ces armées rentreraient en Palestine pour aider les Palestiniens, les armées donc régulières des pays arabes. Et c'est ce qui s'est passé, en effet, puisque les différentes armées égyptiennes, syriennes, libanaises, jordaniennes, irakiennes même, sont rentrées pour aider les Palestiniens à l'emporter face aux Juifs.
Aux Juifs.
Et finalement, au cours de l'automne 1948, au bout de tout un nombre relativement important de batailles, l'État d'Israël l'a emporté, et avec un territoire qui était même un peu plus vaste que celui que lui avait alloué le plan de partage de 1947.
Je renvoie nos auditeurs à votre livre paru chez Armand Collin en 2017 à l'Indicof. Ça s'appelle « Le conflit israélo-palestinien ». Un très grand merci de nous avoir retracé cette histoire complexe et longue dans ces émissions. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous êtes également directeur du Centre de recherche international. Vous êtes un spécialiste de l'histoire et de la politique d'Israël. Merci beaucoup Alain Dikoff.